Dieu vous bénisse. Père Céleste, si nous voulons aller plus loin, c'est toujours sur ta grâce que nous voulons compter. Et puisses-tu nous faire avancer, que nous puissions nous rapprocher de toi chaque jour. Nous te demandons de nous assister encore ce soir et que ta parole nous soit accordée. Répands ton onction sur nous. Gros Dieu, qu'elle soit prêchée par le Saint-Esprit, écoutée par le Saint-Esprit, par ceux qui l'écoutent. Nous demandons à ce que nos péchés soient pardonnés, afin qu'ils n'obstruent pas dans la communion, afin qu'ils n'obstruent pas, ô Dieu, ton action sur nous, que cela ne soit pas un obstacle, comme nous le disons. Nous te demandons de bénir encore ta parole, de l'inspirer, de nous édifier encore davantage. Au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous allons lire ce soir dans Luc chapitre 19. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Intitulé le sermon de ce soir, jugé sur cette partie de verset, il devait passer par là. C'était une obligation. Et cette obligation doit venir de quelque part. Pourquoi est-ce que le Seigneur était-il obligé de passer par là? Dans un drame, il donne une explication. Il dit sa femme, qu'il a appelé Rebecca, a dû prier énormément pour lui, pour Zachée. Ça, c'est déjà une chose. Deuxième chose, Jésus disait, celui qui me cherchera, me trouvera. Et il cherchait à voir qui était Jésus. Et si vous cherchez à voir qui il est, il se montrera tel qu'il est. S'il dit, vous me verrez, si vous savez qu'il est le Fils du Dieu vivant, eh bien, il se montrera à vous en tant que Fils du Dieu vivant. Exactement comme il s'est montré à Nathanaël, disant, avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous le figuier, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Il dit à Pierre, Simon, fils de Jonas, et toutes ces choses, eh bien, ça montrait qui il était. Et sa femme a dû prier toute la nuit. Elle a prié, sachant que Jésus allait venir à Jéricho, où Zachée était un homme d'affaires dans la ville. Et elle priait pour qu'il puisse rencontrer ainsi Jésus-Christ. Parce que ce qui est bien, c'est de ne pas obliger à quelqu'un de croire en lui. Dites-lui seulement, comme Philippe a dit à Nathanaël, viens et vois. Et elle a prié, elle a insisté dans sa prière, et elle a dit, vous savez, quelqu'un qui prie avec conviction, avec foi. Or, pour une femme qui prie, elle peut faire plus pour le royaume de Dieu sur ses genoux à la maison que parfois certains prédicateurs peuvent le faire sur la chair, à la chair. Elle savait donc que Jésus de Nazareth devait venir à Jéricho. Et si seulement elle pouvait, si seulement il pouvait rencontrer Zachée, elle sait que une fois à la rencontre avec Jésus-Christ, Jésus est celui qui vous change, il vous transforme. Vous n'êtes plus le même quand vous le rencontrez. Et c'était vraiment son désir. Et vous savez, quand le Seigneur vient quelque part, cela fait mouvoir beaucoup de gens, une foule mixte, comme il dit. Hein? Certains viennent pour critiquer, d'autres viennent pour se moquer, mais d'autres viennent pour voir qui il est, pour croire. Et Dieu a entendu la prière de la femme de Zachée. Il a entendu. Et a entendu sa prière, ce qui fait Jésus s'est retrouvé dans l'obligation. En allant à Jéricho, il s'est retrouvé dans l'obligation d'aller chez Zachée et de prendre un certain chemin. Et dans ce chemin, Zachée ne va pas rencontrer quelqu'un d'ordinaire. Il pensait même se cacher sur l'arbre. Jésus ne marchait pas en regardant sur les arbres. Mais au-dessus des arbres, dans les arbres, mais il marchait normalement. Quand il est arrivé exactement au pied de l'arbre où se trouvait Zachée, il a juste levé les yeux et il a appelé par son nom. Et il lui a dit, n'est-ce pas, Zachée, descends. Ah. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. C'est que, en fait, ça, c'est le résultat d'une prière. C'est que la prière peut faire. La prière fervente du juste, n'est-ce pas, est d'une grande efficacité. Dieu est capable de mettre au-dedans de quelqu'un un feu qui va faire que si jamais il se cache dans sa carapace, il se cache dans sa carapace et ne veut rien entendre de cela, mais Dieu a la possibilité de mettre un feu au-dessous de sa carapace et l'obliger à sortir de là et à pouvoir marcher. Vous connaissez l'histoire de la tortue qui s'est cachée dans sa carapace. On a essayé tous les bâtons possibles. Le bâton ne fera pas changer quelqu'un, ne convertira pas quelqu'un. Mais il faut le feu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui convainc le monde du péché. Le Saint-Esprit est celui qui montre qui vous conduit dans la vérité. Le Saint-Esprit est celui qui vient qui vous fait appeler Jésus Seigneur. Amen. Et Zachée était aussi un fils d'Abraham. Et ce qui fait que Dieu avait préparé le chemin déjà avant la fondation du monde. Ce sycomore avait été planté là dans un but bien précis. Dieu a tout fait dans un but. Et ce sycomore, son but, c'était celui-là. Les autres arbres peuvent avoir d'autres buts. Produire de l'oxygène au monde entier, hein, ou des choses pareilles. Mais celui-là, son but était justement de pouvoir y placer Zachée pour que ce fils d'Abraham puisse trouver le salut. Et cela nous montre quoi? Cela nous montre qu'il ne faut pas douter de sa prière. Quelle que soit, n'est-ce pas, la réaction de la personne pour laquelle vous priez, ne vous en occupez pas. Sachez que Dieu est capable de renverser n'importe quel mur. Et ça, c'est ce que nous croyons. Vous savez, il devait passer par là. Et au verset 8, Zachée, ayant rencontré Jésus-Christ, Zachée était devenu une autre personne. Déjà au verset 8, Zachée se tenant devant le Seigneur. Vous voyez ça? Une fois que vous êtes devant lui, vous n'êtes plus cet homme d'affaires que vous étiez, au nez crochu que vous étiez. Il lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Tout ça, c'est la parole. Jusque-là, cette parole ne lui faisait rien. Vous pouvez voir cela dans Exode 22, ce qu'il est en train de dire ici. Certainement, quand on lui avait enseigné ça à la chair, il n'y avait pas cru. Hein, ça lui passait par-dessus. Mais maintenant que Jésus était devant lui, cette parole a commencé à bouillonner au-dedans de lui. Ça l'a poussé à la mettre en pratique. Si seulement nous pouvions faire de sorte ce soir que ces paroles que nous avons, que nous voulons que Dieu puisse accomplir en notre faveur, puisse le faire aujourd'hui, nous ne pouvons pas la manifester. Mais Jésus-Christ est capable de le faire. Or, par votre prière fervente, vous pouvez aujourd'hui conduire Jésus-Christ à faire un détour du côté de l'hôpital d'Érasme. Par votre prière fervente, vous pouvez aujourd'hui obliger Jésus-Christ à aller faire un tour du côté de As. Avec une prière fervente, vous pouvez obliger Jésus-Christ à emprunter tel chemin dont vous avez besoin qu'il emprunte, là où il y a un besoin. Non seulement cela, même notre frère qui est derrière là-bas, si seulement nous pouvions prier pour lui, hein, pour que le Seigneur se mette devant lui. Nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est compatir avec lui. Mais Jésus-Christ est celui qui peut lui enlever ces tremblements qu'il a. Jésus-Christ est celui qui peut lui venir en aide. Si seulement nous pouvions prier, je crois que la femme de Zachée a prié de manière avec ferveur parce qu'il s'agissait de son époux. Et nous aussi, lorsque nous prions avec ferveur, c'est quand il s'agit de quelqu'un que nous portons dans notre cœur. Si seulement nous pouvions nous porter dans le cœur ainsi. Vous connaissez l'histoire, je crois que c'est frère Jacques qui racontait ça. Un jour, dans un deuil, il avait exhorté. Et dans ce deuil, un drame a failli se passer à un bébé qui n'était déjà pas bien. Un bébé est mort pendant le deuil, pendant qu'ils étaient là au deuil. Et on lui a dit, mais tu viens de nous prêcher ici la puissance de ton Dieu. La maman qui criait et tout. On lui a donné le bébé pour qu'il prie pour le bébé. Il s'est mis à prier. Il s'est mis à prier et puis il a remis, disant, écoutez, c'est Dieu qui Dieu qui guérit. C'est Dieu qui ressuscite. Et au moment où il remettait le bébé, une voix lui dit à l'intérieur, et si c'était ton bébé? Elle a dit, redonnez-moi le bébé. Vous voyez? Et il a prié pour le bébé. Et le bébé s'est réveillé. Et c'était un grand témoignage qu'il pouvait apporter. Il y avait aussi un jour, une femme, on n'a pas fini, non, on va d'abord lire, il dit, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Tout ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Amen. Et Jésus-Christ dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est le but pour lequel il est venu. C'est le but, en tout cas, qu'il a cherché, c'est ce qui l'a amené à aller à Jéricho. Parce qu'il y avait un fils d'Abraham qui était là, qui avait besoin du salut. Et le salut leur est destiné. Il y avait aussi une femme samaritaine qui avait des besoins. Donc, ici, nous voyons une chose qui peut obliger Jésus-Christ à emprunter un certain itinéraire, c'est votre prière. Amen. Votre demande. C'est déjà une chose. Une deuxième chose ici, qui est là, nous allons voir, à propos de cette Samaritaine, elle avait un besoin. C'était une croyante. Comment savons-nous que c'était une croyante? Elle attendait le Messie. Il y avait une promesse du Messie, elle attendait le Messie, n'est-ce pas? Elle va dire ici, au verset 25, Jean chapitre 4, la femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir. » Elle savait cela, elle avait entendu cela. Celui qu'on appelle Christ, quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Ouais, ça suffisait pour elle. Hein, là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu ?» ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Non. Mais de toute façon, la femme n'avait plus besoin de quoi que ce soit d'autre. Maintenant qu'elle a vu que c'était le Messie, Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » La femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Elle était allée prendre de l'eau, puiser de l'eau au puits de Jacob. Et en allant puiser de l'eau, Jésus se trouvait où? Jésus se trouvait en Judée. Il était en Judée et à un moment donné, il a dit qu'il devait partir. Au verset 1er de Jean 4, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. En allant en Galilée, il y avait une obligation. Il fallait qu'il passe par la Samarie. C'était une obligation. Amen. Jésus était obligé de passer par la Samarie. Pourquoi devait-il passer par la Samarie? Eh bien, parce qu'il y avait une femme qui avait besoin de lui. Et en passant par là, Jésus va la rencontrer et il va engager une conversation avec elle. La conversation s'est engagée. Au verset 7, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Amen.
Amen.
Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, Jésus va dévoiler ce qu'il était. D'abord, avant cela, avant que Jésus ne lui dévoile ce qu'il est, Jésus lui dévoile ce qui ne va pas en elle. Quel est son problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Verset 15. Aller puiser là, je crois que c'est quelque chose qui l'a dérangé. Si elle pouvait seulement avoir de l'eau, sans devoir aller puiser, n'est-ce pas, au puits de Jacob, à cause des regards de Jean, je crois que ça lui ferait du bien. Mais Jésus lui dit, « Moi, j'ai de l'eau. Si je t'en donne, tu n'auras plus besoin de venir ici. » Alors, Jésus lui dit, « Tu veux de cette eau ? » Eh bien, va, lui dit Jésus, « Appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, en cela tu as dit vrai. » Elle était là, elle attendait le Messie. Je ne sais pas ce que vous attendez. Si vous attendez une guérison, si vous attendez une délivrance, si vous attendez une réponse à une question, à un problème, Jésus a la solution de votre problème. Si vous attendez cela, vous pouvez... Il y a moyen d'obliger Jésus-Christ, n'est-ce pas, à pouvoir ainsi assouvir votre besoin, satisfaire votre besoin ce soir. Il y a un moyen que votre attente soit une réelle attente, que quand il viendra, vous le recevrez réellement. Certains disent qu'ils l'attendent et quand il vient, comme les Juifs à l'époque, Israël à l'époque, ils disaient qu'ils attendaient le Messie, mais quand il est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Et ils ne l'ont pas reçu. Mais il y en a, ceux qui l'ont reconnu, l'ont reçu. Et ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Nathanaël l'attendait. Et Frère Branham, dans des drames, il dit qu'il était, il priait Dieu, que Dieu envoie le Messie. Et voilà que Philippe vient lui dire, écoute, pendant qu'il était sous le figuier là-bas, Philippe vient lui dire, écoute, j'ai trouvé celui qu'on cherche. C'est qui ça? C'est Jésus de Nazareth. Jésus, en là en Galilée, il fallait qu'il passe par la Samarie. C'était une obligation. Dieu se sent obligé, non pas vis-à-vis de nous. Dieu est obligé vis-à-vis de ses promesses. Pourquoi? Parce qu'il a juré par lui-même. Il ne pouvait pas jurer par quelqu'un de plus grand. Son nom est engagé. Ce nom merveilleux qu'il nous a donné. Il dit que, en mon nom, voici ce que vous ferez en mon nom. Alors, ce nom, Dieu ne peut pas accepter qu'il soit prononcé en vain. Ce nom doit être prononcé avec foi, avec le fait que vous croyez, vous avez cette conviction au-dedans de vous que réellement, en prononçant ce nom, vous obtiendrez ce que vous demandez. Car tout genou fléchit devant ce nom merveilleux. Et ce nom, nous l'avons donné. Et Jésus dit, je leur ai fait connaître ton nom. Et ils l'ont gardé. Si seulement vous pouviez garder ce nom. Vous savez, avec ce nom, vous pouvez sortir, pas vous, mais Dieu va sortir beaucoup de gens d'affaires. Dieu va sortir des gens, beaucoup de gens, de certains problèmes. Cet homme à la porte, appelé la belle, qui tendait la main, qui demandait l'aumône, Pierre lui dit, de l'argent, je n'en ai pas. Je n'ai ni or ni argent. Mon frère Jean, ici non plus, n'a ni or ni argent. Mais j'ai quelque chose qui peut faire plus que l'or ou l'argent que tu demandes. L'or ou l'argent que tu demandes va juste remplir ton ventre. Mais j'ai ici quelque chose qui peut te faire lever de là, enlever ton infirmité. J'ai ici un nom qui peut t'enlever ta maladie. J'ai ici quelque chose qui peut te sortir de ce lit d'hôpital. J'ai ici quelque chose qui peut te relever et te rendre exactement, comment dirais-je, exactement normal. C'est ce que j'ai. Et ils allaient à la réunion de prière. Ils allaient pour prier, ils s'étaient préparés certainement à la prière, c'est dire que leur prière était efficace. Quand vous venez dans une réunion de prière, mais préparez-vous à vous attendre à quelque chose. Préparez-vous à recevoir quelque chose. Ne venez pas à une réunion de prière juste pour le plaisir de venir à une réunion de prière. Venez dans le but de demander et de recevoir ce que vous demandez. Et priez Dieu pour que vous demandiez la chose juste. Priez Dieu pour que vous demandiez ce qu'il faut réellement demander. Maintenant, si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, le Saint-Esprit vous montrera que ce que vous demandez, ce n'est pas dans sa volonté. Mais nous lui faisons confiance. Il fallait absolument qu'il passe par la Samarie. Vous savez, la parole de Dieu, elle ne vous laisse pas tranquille. Si vous êtes destiné à cela, la parole va vous faire bouger. Vous n'allez pas rester stoïque. Vous allez bouger. Qui ça, Jérémie, à un moment donné, il avait des soucis dans son ministère. Et puis, il a dit, bon, j'arrête. Mais, Jérémie, chapitre 20. Verset 7. Il dit, tu m'as persuadé, Éternel. Alléluia. Il faut que nous soyons persuadés.
Amen.
Quand Dieu nous fait une promesse et que nous venons avec cette promesse, soyons persuadés que cette promesse est efficace. Ayons cette conviction-là. Qui ça? Abraham avait la conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Oh, Dieu te bénisse. Amen. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Ça, vous vous en fichez. Ce que les gens diront, vous vous en fichez. C'est une affaire entre Jérémie et Dieu. Ce n'est pas une affaire entre Jérémie et le peuple d'Israël, c'est une affaire entre Jérémie et Dieu. Ce que le peuple d'Israël pense, vous vous en fichez. Ce que le reste de l'assemblée peut penser, vous vous en fichez. Ce qui compte, c'est votre relation avec Dieu.
Amen.
Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie, que je dénonce la violence et l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Les gens se moquent. Alors, découragé, il dit, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, eh bien c'est terminé. Je ne parlerai plus en son nom, c'est fini. Mais il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de contenir ce feu et je ne le puis. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez dire, c'est fini, je ne le fais plus, je ne le dis plus. Eh bien, non, Dieu va mettre un feu dans votre cœur. Vous serez bien obligé, de prononcer à nouveau cela. Parce que Dieu vous a destiné à cela. Parce que vous êtes équipé à cela. Avec cela. À la porte des brebis, il y avait un croyant. Donc ici, cette femme attendait le Messie. Si vous vous attendez réellement le Messie, c'est celui qui était promis à Israël. C'est le loin qui était promis à Israël. C'est le Christ. Et si vous vous attendez réellement aux promesses de Dieu, Dieu ne peut pas vous décevoir.
Alléluia.
Car ses promesses, elles sont certaines.
Amen.
Elles sont dignes de confiance.
Amen.
Attendez-vous à ses promesses.
Amen.
On ne joue pas à pile ou face. On est certain de ce qu'on attend.
Amen.
À la porte des brebis, il y avait un croyant. C'était aussi un croyant. Et Dieu a aussi poussé Jésus-Christ à passer par la porte de brebis. Ouais. Jean chapitre 5. C'est un croyant en la guérison divine. Il croyait cela.
Amen.
Pouvez-vous imaginer qu'on vous dise, il y a une piscine là-bas. Il y a un ange qui vient agiter l'eau et le premier qui plonge dans l'eau, il sera guéri de son mal. Sa demande sera exaucée. Il faut de la foi pour y croire. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, parce que chaque fête des Juifs, il fallait aller à Jérusalem. À Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. 5, le chiffre de la grâce. N'oubliez jamais cela. Dieu communique sa parole aussi au travers des chiffres. C'est ce que nous obtenons de Dieu. Nos guérisons, nos délivrances et tout cela, et n'oublions pas, nous les obtenons par grâce.
Amen.
Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Ils étaient nombreux. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Alors maintenant, nous voyons ici au verset 3, nous voyons qu'ils étaient nombreux. Un grand nombre des malades, n'est-ce pas? Un grand nombre des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Et lorsqu'il y avait un mouvement de l'eau, le premier qui plongeait, il était guéri. Oui. Alors maintenant, à quoi vous attendez-vous? Est-ce que c'est le mouvement de l'eau qui vous guérit ou c'est Dieu? Certains étaient là, ils croyaient au mouvement de l'eau. Alors maintenant, si vous n'êtes pas le premier, vous n'y passerez pas. Mais il y a un Dieu qui guérit. Maintenant, de ces aveugles, de ces boiteux, ceux qui étaient paralytiques, ils avaient certainement des gens qui pouvaient les jeter dans l'eau assez vite. Mais il fallait qu'ils soient promptes. Imaginez-vous que ceux qui doivent vous porter, lorsque l'eau s'agite, s'ils étaient fatigués, ils s'étaient assoupis, eh bien, quand ils vont arriver et vous prendre, vous jeter dans l'eau, ce sera trop tard. Il y en aura déjà un là-bas. Alors, qu'est-ce qui vous reste à ce moment-là? Lorsque ça devient quasi impossible pour vous, attendez-vous à Dieu. Ne soyez pas là toujours à attendre des signes. Attendez-vous à Dieu. Ah, l'eau a bougé. Est-ce que l'eau a bougé? Parfois, c'est le vent qui fait bouger. Vous croyez que c'est un ange? Non, ça ne marche pas. Quand un ange descendait, de temps en temps, pas tout le temps, sans prévenir à quel moment, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait, n'est-ce pas, l'eau. Amen. Et celui qui y descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Ça vous montre qu'il y a un Dieu. Un Dieu tout-puissant. Un Dieu illimité. Quelle que soit la maladie, on ne triait pas disant, écoute, ton cas, c'est un cas impossible. Toi, ton cas, tu peux y aller plonger. Non, n'importe quel cas qui se présentait, Dieu était prêt à relever le défi. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Bien-aimé, il y a ici une qualité que nous allons essayer de voir depuis 38 ans. Frère François, quelle est cette qualité? La persévérance. Ne vous relâchez jamais dans la prière. 38 ans.
Alléluia.
Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Mais Seigneur, ça fait 38 ans que j'attends ce moment. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, mais j'attends quand même. Vous ne vous attendez pas à la pitié des gens. Attendez-vous seulement à la pitié de Dieu.
Amen.
Attendez-vous à sa miséricorde.
Amen.
Mais alors, ces autres boiteux, paralytiques, malades, les aveugles, pourquoi est-ce que Jésus ne s'arrête pas chez eux? Peut-être qu'ils venaient d'arriver. Peut-être que beaucoup s'étaient déjà découragés, étaient partis. Ceux-là étaient des nouveaux. Mais lui, il restait là. Pendant 38 ans, il en a vu des guérisons. Il en a vu des délivrances. Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Si je dois regarder à mes propres capacités, Seigneur, c'est impossible que je puisse bénéficier de l'agitation de l'eau. Ce qu'il me faut maintenant, que toi tu agisses. Jésus lui dit, tu n'as pas besoin d'entrer dans l'eau. Qu'un ange vienne ou qu'un ange ne vienne pas, moi je te dis ceci, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Oh, Dieu m'a dit de prendre mon lit. Si Jésus m'avait dit de laisser mon lit, je l'aurais laissé. Mais Jésus m'a dit de prendre mon lit. Amen. Soyez pas trop carré. Soyez pas, le monde dit, ne soyez pas plus catholique que le pape. Il est très catholique, le pape. Jésus lui a dit, prends ton lit et marche. Hein, est-ce que vous avez discuté, Seigneur, mais c'est le sabbat. Il sait que c'est le sabbat. Vous n'allez pas lui apprendre que c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de prendre ton lit un jour de sabbat. Il dit, ah, il a répondu, celui qui m'a guéri m'a dit, hein, il m'a dit, prends ton lit et marche. Donc, si vous cherchez un responsable, c'est lui. Allez le trouver. Amen. Il m'a dit, prends ton lit et marche. Il lui demandait, qui est-il? Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Amen. La persévérance, il était non seulement croyant, mais il était persévérant. C'est ici, dit la Bible, la persévérance et la foi des saints. À ce niveau-là, hein, la persévérance, hein, une telle persévérance, 38 ans, 38 ans d'attente, ce n'est plus une qualité, hein, ce n'est plus une qualité humaine. Ça ne peut être qu'un don divin. Ça ne peut être qu'un don de Dieu. Oh Seigneur, donne-moi cette persévérance-là. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Tellement les problèmes vont s'accumuler. Tellement les malheurs vont venir s'abattre sur vous. Tellement vous aurez des soucis, tellement il y aura de ces choses, ça risque de vous décourager. Ça risque de vous faire tomber dans le relâchement. On prie, rien ne change. Et je suis toujours le dernier. Oh, Dieu guérit plutôt les autres, mais moi, il ne me guérit pas. Persévérez jusqu'à la fin. Ne le lâchez pas. Les fils de Jacob doivent savoir cela. Que leur père, il était battu dans le combat. On lui a donné un de ses coups qui lui a fait déboîter la hanche. Hein? Il ne savait plus tellement se tenir debout. Il ne savait plus continuer à se battre. Maintenant, celui avec qui il se battait, il lui dit, je m'en vais. Il le prend. Ça, c'est la persévérance. Il dit, je ne te lâcherai pas. Il avait peut-être mal à la hanche, mais il lui dit, je ne te lâcherai pas. Jusqu'à ce que tu me bénisses. Et il a béni. Ne le lâchez pas. Tenez-le. Tenez-le jusqu'au bout. Bartimée était au bord du chemin. On venait lui dire, tais-toi. Mais plus on lui disait, tais-toi, il criait de plus en plus fort. Ne vous relâchez jamais. Bartimée était sûr d'une chose, que Jésus de Nazareth pouvait le guérir, lui redonner sa vue. Soyez sûr de cela. Il dit, on le faisait taire. N'écoutez pas ce que les autres disent. Ça peut sembler avoir de la sagesse. Tu importunes le maître, vous ne l'importunez pas. Lui-même, il a dit, demandez beaucoup. Un jour, en passant, toujours en passant, il devait passer par là. Il devait passer par la Samarie. Un jour, en passant, il voit un aveugle né. En passant, Jean chapitre 9. Nous voulons l'obliger ce soir à passer par la rue de Firland. Nous voulons l'obliger ce soir à passer par Érasme. Nous voulons ce soir l'obliger à passer par où nous avons nos besoins, où nous avons nos bien-aimés qui ont besoin de lui. Que ça soit de naissance ou que cela ne soit pas de naissance. Pas de problème. Jésus vit en passant. Il ne faisait que passer. Oh, quand tu passes, Seigneur, ne m'oublie pas.
Amen.
En passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché? Ça, c'est le genre d'idée qui circule vite dans une assemblée. Qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc Dieu voulait manifester son œuvre au travers de cet aveugle-né. Il est né aveugle pour cette cause-là.
Alléluia.
Dieu avait un plan avec lui. Et là où il était assis, là où il était demandant l'aumône peut-être, je crois, Jésus devait passer par là. Si seulement Jésus pouvait passer par là. C'est cela notre prière ce soir. Je le répéterai encore pour les quelques minutes qui passeront, que nous allons passer. Si seulement il peut passer par là. Pas il peut, il doit passer par là. Prions pour qu'il passe par là. Il n'est pas obligé vis-à-vis de nous, mais il est obligé vis-à-vis de sa parole. Si vous avez la foi en cette parole, vous croyez comme l'Écriture dit qu'il faut croire, Dieu est dans l'obligation d'intervenir en votre faveur. Si ça n'arrive pas, ne faisons pas les étonner hein, avant de continuer dans Marc chapitre 9. Ça peut ne pas arriver. Il y a un problème. On va revenir dans Jean 9. Dans Marc 9. Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Ces mêmes disciples qui sont revenus dans Luc 10, disant, les démons nous étaient soumis. Et ils commençaient à chasser les démons un peu par habitude. Et ils se sont dit, oh, c'est un petit cas ça. C'est vrai, c'est un petit cas pour Dieu. Mais ils sont arrivés là, ils n'ont pas pu. Jésus les regarde, Jésus leur dit, race incrédule. Leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au père, « Combien a-t-il de temps que cela lui arrive ?»« Depuis son enfance, répondit-il. » Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. « Mais si tu peux quelque chose, oulala, viens à notre secours et compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Vous le croyez ?
Amen.
Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Voilà notre prière ce soir.
Amen.
Nous avons essayé, nous avons prié, on n'a pas pu. Jésus, voyant courir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd. » Il a vu qui c'était. Je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et pourtant, le démon est malin. Hein? Et pourtant, à aucun moment, le papa n'a décrit le fait que l'enfant était sourd, était muet, non. Il dit, l'esprit l'agite avec violence, il tombe, se roule par terre. Jésus a su directement, c'était un esprit muet et sourd. Dieu sait ce qui vous tracasse. Je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Nous, on aurait tendance à dire, l'esprit sourd, là, il va vous empêcher d'entendre. Il n'y a pas que ça. Il vous fait jeter dans le feu. Il vous fait écumer. Il sortit en poussant de cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus l'ayant pris par la main, le fit lever. Et il se tint debout. Les disciples ont regardé, ils disent, quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi? Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Ne vous relâchez pas.
Amen.
Continuez à demander. Dieu est prompt pour venir en aide à ses élus qui crient à lui jour et nuit.
Amen.
Criez à lui jour et nuit. Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière.
Oui.
Mais revenons à notre homme, notre frère-là, aveugle de naissance. Jésus répondit, verset 3, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ça, c'est le but que Dieu poursuivait au travers de cet homme. C'était le but. Mais le but ultime, c'était de le sauver. Parce que Jésus-Christ, nous connaissons Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. N'est-ce pas? C'est ça le but de Dieu. Alors, maintenant, que va-t-il se passer? Nous connaissons l'histoire. Jésus va lui donner la vue. Pas lui rendre parce qu'il n'a jamais vu de sa vie, mais lui donner la vue. Et après cela, il va y avoir discussion avec les pharisiens, entre lui et les pharisiens. Et les pharisiens vont le chasser. Ils vont dire que c'est un pécheur. Oh, Jésus guérit les pécheurs. Il lui dit, verset 34, il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché. Eux, ils étaient nés seulement un peu dans le péché. Mais lui, il est né tout entier dans le péché. Et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'était le but que Dieu cherchait. Que cet homme puisse en arriver à croire à ce don que Dieu avait fait à l'humanité.
Amen.
Et il, alors, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Quelqu'un qui peut guérir un aveugle né de naissance, un aveugle né, pardon.
Oui.
Il dit, il a dit aux pharisiens, il a dit, vous avez déjà entendu ça, que quelqu'un guérisse un aveugle né. Aveugle de naissance, avez-vous jamais entendu ça? Alors, si tu me demandes, si tu me dis que c'est toi, que c'est toi, ben moi je crois en toi.
Amen.
Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Lui, c'est sans discussion. Et il dit, je crois, Seigneur.
Amen.
Et il adora.
Alléluia.
Vous voyez, c'est ça le but. Puisse-t-il ce soir, à cause de vos prières, à cause de vos demandes, à cause de vos soucis, je ne sais pas, à cause de votre louange, votre adoration, don de vous-même, puisse-t-il ce soir se sentir obligé de passer par là où nous lui demandons de passer. Poser sa main sur nous qui ont besoin de prière. qu'ils puissent le rencontrer, qu'ils puissent le voir et que le Seigneur fasse son travail. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Partout où il y a un besoin, faisant partie des promesses que Dieu a faites à Abraham et à sa postérité, Jésus est prêt à passer par là. Et il entend les prières de ses enfants. Prions le Seigneur. Pour lui, c'est une obligation. Il veut nous guérir. Qu'importe le temps qui passe. Qu'importe le temps. 38 ans, vous parlez d'une persévérance. Que Dieu nous fasse don de cette persévérance. Où l'on ne se relâche pas. Où l'on demande nuit et jour. Parce qu'il a dit que Dieu nous fera justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Et n'attardera pas à agir à leur égard. Merci pour cela, Seigneur. Merci pour ces promesses. Et nous nous reposons sur cela. Les promesses, elles sont certaines. Si nous pouvions tout simplement nous croiser, pouvions tout simplement faire de sorte que tu passes par là. Bartimée a trouvé aussi le chemin par où tu passais. Zachée l'a trouvé. Quelqu'un a dû prier pour lui, selon qu'il nous a été dit. L'apôtre dit, priez pour tous les saints. Certainement, on a prié pour nous. Que nos besoins soient rencontrés. Te remercions ce soir pour l'occasion que tu nous as donnée. Puissions-nous rappeler ces choses. Que nous puissions voir que tu mets un point d'honneur à accomplir ta parole sur toutes tes promesses. Si les demandes sont nombreuses au cœur de tes enfants ici ce soir. Là où il y a un besoin de consolation, puisses-tu passer par là. Là où il y a un besoin de guérison, oh Seigneur, nous te demandons de passer par là. Là où il y a un besoin de délivrance, comme cet homme avec son fils, puisses-tu passer par là. Si tu n'étais pas passé par là, la condition de son fils ne se serait pas améliorée. Pendant que tu passeras par là, les cœurs sont ouverts, afin que tu entres également, que tu passes également par le 94 rue de Firland. Souviens-toi de nos malades. Notre frère là-bas derrière, notre frère Corneille, a besoin de ton intervention. Besoin, oh, nous avons un frère à l'hôpital. Une sœur alitée. Nous avons un enfant paralytique. Et nous avons d'autres soucis également. À qui d'autre irons-nous? Nous n'avons personne pour nous jeter dans l'eau. Nous n'avons que toi, Seigneur. Secours. Accompagne-nous dans nos maisons pendant que nous rentrons. Puissions-nous te rencontrer pendant que nous rentrons. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons demandé. Amen. Amen.